audience?
Everyone. We want to reach the widest audience possible.
Well, I think that's wrong.
Excuse me?
You don't need everyone. Your problem is that you're talking broadcast. Cable is different. Cable is about one thing, niche.
Wakey, wakey, biatch.
I kneel before no one.
My name is Jenny Garth. I play Kelly Taylor on the show.
Oh, that's you.
Yeah.
Oh, you look so much older than her.
Don't go there, Jenny Jugger.
Shit, it looks like CSI Nigeria in here.
If Mexican Joker doesn't have flashbacks, then he doesn't grow up to become a monster.
What if this is the flashback? We might be in the flashback, Dave. Maybe you're shocking the child that grows up to be Mexican Joker.
Do you realize how embarrassing it is to be married to a stinker thinker? You're my wife. You're supposed to support and respect the work I do.
Bien le bonsoir, bienvenue à l'écoute de Série Folie, deuxième épisode de la saison 7 qui s'est faite attendre. Bonsoir Aurore.
Bonsoir.
Série Folie sur reparti, cette émission qui vous parle série télévisée. Alors, on va, comme à l'habitude, reprendre ce chemin vers les nouveautés de la semaine. Il y en a trois, je pense.
Oui, alors... pas vraiment de la semaine, hein. Il faut bien avouer que vu le retard qu'on avait accumulé...
C'est les trois nouveautés qu'on va revoir cette semaine, hein. voilà. Soyons précis, qui ne sont peut-être plus toutes neuves d'ailleurs, voilà.
Oui, je serais sans doute pas la seule à les avoir vues, peut-être même terminées et archivées, on ne sait jamais. Bon,
on t'écoute.
On commence tout de suite avec celle... qui, me semble-t-il, est la plus ancienne, c'est-à-dire qu'elle a dû commencer vers la fin du mois d'août. Ça s'appelait, je l'ai annoncé la semaine passée, On Becoming a God in Central Florida, et ça nous était proposé par Showtime.
D'accord.
Voilà, donc c'est une série de... une dizaine d'épisodes, peut-être un peu plus, je ne me souviens plus. Mais en tout cas, on sait déjà que ça a été renouvelé pour une saison 2, donc on est plutôt content. Alors, de quoi s'agit-il ? Donc, nous avons l'histoire d'une famille assez basique, on va dire, qui vit donc dans le centre de la Floride. L'homme, la femme, le petit bébé, qui ont un petit pavillon de banlieue. Elle travaille dans un centre aquatique. Et lui, essaie de toutes ses forces de... percer dans l'auto-entreprise, on va appeler ça comme ça, grâce à des... on va pas se le cacher, une sorte de d'arnaque pyramidale, je sais pas comment on appelle ça, tu vois.
Je vois ce que tu veux dire, oui.
Voilà, en gros, il doit vendre des produits, mais étant donné que plus il en vend et plus il monte dans les échelons, en fait, il les achète lui-même et il les cache à gauche, à droite. Et donc, au final, il s'endette avec... toujours l'espoir un jour de devenir un super riche. Hein. C'est d'ailleurs les arguments qu'il sort à sa femme à chaque fois qu'elle lui dit que peut-être ce serait bien d'abandonner ses rêves de grande réussite et déjà de vivre bien avec son vrai travail et le salaire qu'il en retire. Sauf que lui, il a tellement été, enfin son cerveau a tellement été lavé par toute la propagande du chef charismatique de cette arnaque qu'il est prêt à passer le pas, c'est-à-dire quitter totalement son travail rémunérateur pour se lancer à corps perdu dans cette activité qui est censée le rendre riche, mais qui est surtout en train de lui faire brûler sa vie par les deux bouts, quoi. Très très clairement, il a quasiment aucun temps pour dormir, aucun temps pour s'occuper de sa famille, rien du tout. Il ne vit que pour ça. Et ben, il va arriver ce qui devait arriver, même si on va pas se mentir, ce qui devait arriver va advenir de manière assez inattendue, c'est vrai. Néanmoins, ben, ça va mal se passer pour lui et son épouse va donc se retrouver veuve. Il s'agit du premier épisode. Hein, donc
oui, mise en place.
Je ne spoil pas.
Voilà.
Voilà,
et on en est déjà là.
Et à partir de là, mais le reste de la saison, on va suivre justement la vie de cette, je crois que c'est Crystal qu'elle s'appelle, qui a connu la pauvreté, puisque quand elle était jeune, je crois qu'elle vivait dans une caravane, comme ça se fait beaucoup aux États-Unis pour les personnes les moins riches. Et donc, elle va se lancer également dans plein d'aventures diverses pour essayer de s'en sortir, ne pas devoir vendre sa maison, éponger les nombreuses dettes dont elle n'avait même pas idée de son mari, etc., etc. Enfin bref, les soucis ne font que commencer pour elle. Alors, bon, j'ai posé le tableau, maintenant, que puis-je en dire? Ben déjà que, au niveau des acteurs, on retrouve dans le rôle de la veuve pas trop éplorée. Hein, au final, il faut bien avouer qu'elle n'a pas vraiment le temps de regretter très très longtemps son mari, vu qu'elle n'a pas que ça à penser, quoi. Donc, on retrouve dans ce rôle-là Kristen Dunst, qui est, je dois dire, très convaincante dans ce rôle de femme un petit peu vulgaire, de la classe plutôt pauvre de Floride, avec des vêtements assez typiques, le maquillage et tout, et même les grands rêves à paillettes, etc. Enfin, on a tous les clichés peuvent y passer, et en même temps, ça fait pas tant cliché que ça. On a l'impression d'avoir une vraie personne incarnée là par Kristen Dunst, qui fait donc, j'ai l'impression, un beau retour, parce que ça fait un petit temps que personnellement je ne l'avais pas vue. Donc voilà, j'étais plutôt contente de la voir dans ce rôle-là, dans le rôle de son mari, mais que malheureusement on ne voit donc pas pendant très très longtemps. On retrouve Alexander Skarsgård, j'espère le prononcer pas trop mal, qui était donc le mari de Céleste dans Big Little Lies, hein, si tu te souviens.
Oui.
Mais par contre, il est méconnaissable dans ce rôle-là, parce qu'évidemment, il passe du mec de la grande bourgeoisie de Monterrey au petit plouc de banlieue de Floride, quoi, hein. Donc, clairement, autant au niveau des vêtements que du physique, il en a pris un coup. Il est presque méconnaissable, très clairement, et c'est assez impressionnant à voir. Mais bon, au-delà de ça, c'est super bien joué. Encore une fois, on regrette presque de ne pas pouvoir en avoir davantage, tellement c'est savoureux à regarder. J'ai regardé l'ensemble de la saison. Tout ce que je peux dire, c'est que moi, ça m'a vraiment plu. J'étais emballée par le pilote et j'ai pas été déçue par la suite. Et je suis ravie de savoir qu'il y aura une saison 2. Donc vraiment, je le conseille. Une très bonne surprise pour cette fin d'été, donc, que je conseille en cette fin d'automne.
D'accord.
Bon, écoute, on fait ce qu'on peut. Hein. On passe à la suivante.
Si tu veux bien, oui.
Oui, alors cette fois-ci, on est sur Netflix, donc il y a sûrement plus de monde qui ont eu l'occasion de la regarder, et il s'agit de la série The Politician, qui était proposée, créée par Brian Murphy et Brad Falchuk, qui sont les deux compères, mais qui travaillent ensemble sur énormément de projets, puisqu'on leur doit notamment American Horror Story ou ce genre de petites séries-là qui ont pu occuper nos imaginaires sériels ces dernières années. Et encore une fois, bah, c'est assez réussi. j'ai l'impression que plus on avance dans l'œuvre de ces créateurs et plus ça se pose déjà et plus on prend le temps vraiment de développer un univers et des personnages qui finissent par devenir très très intéressants. Ici on suit principalement l'histoire d'un jeune garçon héritier d'une famille de milliardaires. Alors, je ne sais plus dans quelle ville ils sont exactement, mais j'imagine qu'ils sont en Californie ou pas. Enfin, je ne sais plus. Désolée. Son rêve, c'est de devenir président des États-Unis. Et donc, il a fait absolument tout, étudié le parcours de tous les présidents qui l'ont succédé, finalement, hein, pour savoir comment il devait s'y prendre pour être sûr d'être élu. Une des choses qu'il a remarquées, c'est que tous les présidents avant lui avaient brigué le poste de président de leur lycée, je crois, quelque chose comme ça. Et puis aussi, il y a l'exigence d'entrer à Harvard, parce qu'apparemment, le nombre de présidents sortis de Harvard est beaucoup plus nombreux. Enfin, ce genre de choses-là. Donc voilà, il se lance dans une campagne électorale pour devenir président de son lycée. Un lycée, évidemment, très, très favorisé, tu l'imagines bien. Il a face à lui une adversaire assez farouche qui ne va rien lâcher, donc il va être prêt à toutes les bassesses pour y arriver. Au départ, on a vraiment l'impression qu'on va avoir affaire à un personnage de plus en plus détestable au fur et à mesure du temps. Et en fait, j'étais assez surprise. Heureusement surprise d'ailleurs, de voir que mais plus on avançait dans la série et plus on découvrait finalement des facettes pas si détestables de ce personnage et qu'on avait presque envie de le comprendre, de le soutenir et de l'aimer à la fin de la saison, quoi. Donc c'était plutôt réussi jusque-là, je trouve. Il faut savoir que, d'après ce que j'ai compris, chaque saison, parce que oui, il y aura d'autres saisons aussi après celle-ci, chaque saison nous racontera une campagne électorale différente. Je crois toujours du même personnage, mais je dois t'avouer que j'en suis pas sûre à 100%. Bon, bref. Dans les rôles principaux, on va retrouver Ben Platt, alors que je ne connaissais pas, hein, mais qui est très convaincant, même si je ne suis pas sûre qu'il a vraiment la tête d'un lycéen, mais ça, c'est autre chose. Dans le rôle de sa mère, on a Gwyneth Paltrow. Si tu as envie de voir Gwyneth Paltrow, bah, tu peux la retrouver là. Okay. Et puis, comme dans toutes les séries de Brian Murphy, on a Jessica Lange également, puisque... pour pouvoir être élu, notre politicien en herbe va s'adjoindre une sorte de vice-présidente qui est censée apporter le côté un peu chaleureux et émotionnel que lui n'a pas tellement auprès du reste de la population lycéenne. Et donc, il va choisir une fille qui est atteinte d'un cancer, qui se trouve dans son école. Et Jessica Lange joue la grand-mère de cette fille qui l'élève et dont on va se rendre compte que... cette histoire de cancer n'est peut-être pas aussi nette qu'on pouvait le penser au départ. Donc il y a énormément d'imbroglio dans cette histoire. Alors c'est évidemment pas du tout, on n'est pas dans le réalisme, on est dans quelque chose de vraiment poussé au niveau de... autant au niveau esthétique, on est dans des couleurs très pastel, on est dans un univers très très riche, très favorisé, avec des personnages du coup très capricieux. Enfin, on va avoir tout ça, mais on va avoir aussi un côté assez touchant pour un certain nombre de personnages, avec derrière finalement cette façade qui nous est présentée au départ. Une véritable humanité qui finit par se dégager de ces personnages. Et donc, mais je me suis surprise à dévorer ces 8 ou 10 épisodes à nouveau. C'était pas énorme, avec énormément de plaisir.
Voilà, on comprend, encore un coup de cœur pour ce début de saison.
Eh oui.
Bien, et puis bien, le temps file. On va déjà passer... Ah, la troisième proposition.
Troisième et dernière proposition, cette fois-ci il s'agit d'une série de la rentrée et d'une série de Network. Je trouvais important quand même de parler aussi de ça. Et j'ai choisi comme première série qui m'a plutôt convaincue jusqu'ici, une série proposée par la Fox qui s'appelle Prodigal Son. Oui, Prodigal Son, exactement. Alors, Prodigal Son, qu'est-ce que je peux en dire ? Ben, c'est un procédural qui a été confirmé une fois qu'on a vu les audiences de ce début de saison. Apparemment, ça a suffisamment fonctionné pour obtenir une saison complète de 22 épisodes. Donc ça, c'est déjà plutôt bon signe. Hein. Et je comprends pourquoi ça a pu convaincre, puisque... Moi aussi, j'ai été notamment très très emballée par le premier épisode. Alors on va pas se mentir, la présence de Michael Sheen dans le rôle d'un psychopathe, mais à la fois père du héros principal de la série, donc qui navigue entre son espèce de naturel totalement déculpabilisé du type qui a tué énormément de femmes, mais qui le vit très très bien, quoi. Il est en prison au moment où on commence la série. Il est déjà en prison d'ailleurs depuis un certain temps, mais il s'est installé un beau petit repère là, avec un bureau, une bibliothèque, et il est super bien, il a l'air de très bien le vivre. Donc il est assez lumineux dans ce rôle, au milieu de son trou. Et par contre, son fils, qui est donc le héros de la série, lui le vit beaucoup moins bien, parce que déjà il a des souvenirs d'avoir peut-être assisté à des choses quand il était petit. C'est lui qui est à l'origine de l'arrestation de son père, parce que il l'a dénoncé à un policier qui a fini par le prendre sous son aile. Et du coup, maintenant qu'il est adulte et qu'il est devenu un spécialiste des grands psychopathes tueurs en série, il aide la police, et surtout donc ce policier qui est devenu chef de la police, à résoudre des enquêtes criminelles particulièrement vicieuse, tu l'imagines bien.
Uh-huh.
Alors, est-ce que... Enfin, c'est pas particulièrement pour les enquêtes, très clairement, qu'on va regarder la série. C'est plus pour les relations qui peuvent se vivre entre non seulement le père et son fils, mais il y a aussi la mère qui est toujours dans les parages et avec lequel il a aussi une relation difficile mais intéressante à suivre. Et puis, il y a aussi une petite sœur dans l'histoire qui, jusqu'à présent, j'en ai vu peut-être 4 ou 5 épisodes, n'a pas encore révélé grand-chose, mais dont on imagine qu'elle va quand même aussi prendre sa place dans le jeu. Donc, j'ai vraiment accroché à cette série. Je ne connaissais pas du tout l'acteur qui joue le rôle principal de cette série, mais j'ai aussi été convaincue par son jeu. Alors clairement, on n'est à nouveau pas dans le truc qui, dans la nuance, on y va à fond, quoi. Hein. Le type, il fait des cauchemars, mais il s'attache avec des grosses lanières la nuit pour. donc, t'imagines, on montre bien quand même qu'il est traumatisé, quoi. Hein.
Il est torturé, oui.
Il y a pas de doute à avoir. Tu peux être sûr qu'il est traumatisé. Bref. Pour le moment, ça me plaît. Alors, je ne sais pas si ça durera éternellement, hein, mais je crois que c'est vraiment le personnage de Michael Sheen, pour le moment, qui m'a convaincu de rester. Et pourvu qu'on continue à le voir encore longtemps là-dedans, parce qu'il fait super bien le méchant, mais en même temps, qui est tellement pas coupable que... Est-ce que tu peux vraiment lui en vouloir? Tu vois,
Tu commences à l'apprécier.
Ouais, mais ouais, moi, ces petits yeux qui pétillent rien qu'à penser au meurtre, ça me laisse songeuse, moi.
Ah ben, ça me fait peur.
Écoute, je vais essayer de ne pas te tuer aujourd'hui.
Allez, on va dire ça. Bon.
On va s'écouter de la musique.
Si tu le veux bien.
Bon, je répète quand même le titre une dernière fois. Il s'agissait de Prodigal Son. Hein.
Oui.
Alors, la musique qu'on va s'écouter pour commencer, c'est Candyman de Sammy Davis Jr., entendu dans Mindhunter. Candyman.
What kind of candy you want? Sweet chocolate, malt, candy, gumdrops, anything you want. You've come to the right man because I'm the candy man.
Who can take a sunrise?
Sprinkle it with you.
Cover it with chocolate and a miracle or two. The candy man. Ooh, the candy man can. Candyman can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good.
Makes the world taste good.
Who can take a rainbow?
Who can take a rainbow?
Wrap it in a sigh.
Wrap it in a sigh.
Soak it in the sun and make a groovy lemon pie. The Candyman.
The Candyman.
The Candyman can. The Candyman can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good.
Makes the world taste good. The Candyman makes everything he bakes satisfying and delicious.
Now you talk about your childhood wishes. You can even eat the dishes. Candyman.
The Candyman.
Oh, the Candyman can.
The Candyman can.
The Candyman can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good.
Makes the world taste good.
Who can take tomorrow? Dip it in a dream.
the sorrow and collect of all the cream. The Candyman. The Candyman can.
The Candyman can.
The Candyman can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good.
Makes the world taste good.
Yes, the Candyman can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good.
Makes the world taste good.
A Candyman, a Candyman, a Candyman.
Suite de série folie avec les bonnes habitudes à reprendre, c'est-à-dire un sujet qui va être extrapolé, non?
Oui.
Ah d'accord. Tu me regardes en faisant non, non, oui.
Non, non, je bouge mes
épaules. Ok. Tu te mets en condition.
Le sujet du jour, ça va être les méchants.
Ah, les méchants.
On va parler des méchants.
Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire des méchants?
Écoute, on va essayer d'en dire quand même quelque chose. Hein. Alors, de fait, c'est quoi un méchant? Et surtout, c'est quoi un méchant de série? Est-ce que ça existe vraiment des méchants de série? Oui, quand même.
Je suis d'accord.
Si je te demande, est-ce que tu aurais le nom d'un méchant de série?
Un vrai méchant de série?
Un méchant.
Tu me pièges là.
Ah, c'est pas si simple quand même. Hein.
Non.
Ouais. Mais je dois t'avouer que, de fait, c'est pas si simple. Et pourquoi?
Mais parce qu'on s'attache toujours à tous les personnages.
Ouais, exactement.
C'est lequel parce le vrai méchant qu'on aime
même
pas?
Même s'il y en a certains qui, en effet, peuvent être présentés comme plus méchants que d'autres. Ben, il leur arrive quand même souvent, finalement, d'être un petit peu attachant ou bien de s'amender. Et du coup, est-ce qu'ils sont encore vraiment des méchants? Ben, c'est pas sûr. C'est pas si simple de rester un vrai grand méchant du début à la fin d'une série sans que personne jamais ne s'attache à vous. J'ai posé la question à quelqu'un d'autre parce que justement je cherchais des idées et je dois avouer que l'idée qu'il m'avait donnée n'était pas mauvaise, c'est-à-dire J.R. dans Dallas.
Bah, y a J.R. dans Dallas après moi, il y a eu quelques personnages qui m'ont insupporté dernièrement parce que, dont le gars de Fox News là.
D'accord, voilà, The Loudest Voice. Oui.
Est-ce qu'il est vraiment méchant? Est-ce que c'est un gros méchant?
Oui, tu vois. Avouer, déjà c'est basé sur une histoire vraie. Et puis, comme c'est une mini-série, on n'a pas non plus tout le développement qui nous permettrait éventuellement un retournement de situation où il deviendrait gentil, etc. Mmh. Et puis, c'était un petit peu une série à charge, il faut bien l'avouer, donc on n'allait pas le présenter comme étant gentil.
Et un autre méchant, mais qui n'est pas méchant en soi, c'est pas méchant malicieux contre la société, c'est la mère dans Big Little Lies. Voilà.
Ah oui, elle est bien. Hein.
Elle est bien.
Elle met bien mal à l'aise, ouais. Elle donne bien envie de s'en débarrasser en haut d'une falaise.
C'est ça. Donc voilà, ça, c'est mes best méchants du moment.
Du moment, oui, de cet été. Mais oui, je dois t'avouer que moi aussi, je me suis un petit peu creusé la tête. Alors évidemment, j'ai été fouillée un petit peu plus loin que cet été, tu t'en doutes. Mais finalement, c'est pas si facile à définir que ça, un méchant. Hein, parce que, comme je l'ai dit, c'est assez changeant. Si c'est une série qui dure au minimum, et c'est un petit peu le principe hein, d'une série, c'est qu'il faut qu'elle dure. Les méchants, soit ne restent pas méchants, soit au minimum sont présentés de manière qui nous les rend sympathiques quand même malgré tout, quoi. C'est comme ce que je te disais à propos du personnage du père dans Prodigal Son. Oui, c'est un grand méchant, il a tué, je sais plus, 26 femmes ou quelque chose dans ce genre-là. Mais en même temps, il est joué par un par un acteur qui prend manifestement énormément de plaisir à ça, et nous, on prend énormément de plaisir à le regarder jouer ce rôle-là aussi, quoi. Donc, rien que ça, déjà, ça rend le personnage sympathique, alors que c'est un vrai méchant, quoi, normalement. Donc c'est clairement pas si simple. On a souvent des sentiments assez partagés par rapport aux méchants de série. Aussi parce que parfois, ben, ce sont les héros de l'histoire, hein, les méchants. Il y a quand même un certain nombre de séries dans lesquelles le méchant, ou en tout cas le type ben, qui pourrait être considéré comme un méchant, ben, c'est le héros. C'est le cas des Sopranos, par exemple. Mm-hmm. Tony Soprano, c'est pas un type super sympa à la base. Hein. Il pourrait très bien faire un grand vilain. Dexter, bah...
Oui, oui.
Il en est pas loin non plus. Quand on regarde Gotham, alors Gotham...
Mais c'est ce que j'allais dire, il y a toute la série des Marvel aussi, où t'as quand même un combat permanent.
Là, c'est différent. Là, voilà. C'est différent parce que de fait, on a le super-héros, et traditionnellement, une fois qu'on a le super-héros, ben, on va avoir son vis-à-vis qui représente, lui, plutôt quelqu'un de vraiment du côté du mal, même si, ben, quand on l'a vu du côté des séries Marvel de Netflix, c'était pas si simple que ça, parce que les héros qui nous étaient présentés étaient des héros, malgré tout, tous assez sombres. Hein. Donc là aussi, la ligne de démarcation entre le bien et le mal n'était pas aussi évidente que ça. Mais dans Gotham, là, c'est carrément renversé, puisque Gotham, on a beau s'imaginer que ce serait l'histoire, alors c'est clairement pas l'histoire de Bruce Wayne, qui est encore enfant, on suit sa progression, mais c'est pas le sujet principal. On a le commissaire Gordon. Oui, on suit aussi un petit peu ses enquêtes, mais c'est pas non plus pour lui qu'on regarde la série. Très clairement, si on regarde la série, c'est pour voir se développer le pingouin, le bouffon vert. Je sais pas si c'est le bouffon vert. C'est pas dans Spider-Man. Enfin bref, l'homme mystère, c'est plus ça, etc., etc. Donc voilà le genre de méchant qu'on peut retrouver, mais on peut aussi penser à d'autres personnages, soit vraiment dans le plus méchant. On peut penser au psychopathe dans Mr. Mercedes, par exemple, hein,
oui.
qui est un vrai malade dans sa tête, quand même.
Au
bout d'un moment, ça devient assez clair. On peut penser à certains personnages de Game of Thrones qui sont relativement méchants aussi, ça peut arriver. Parfois même des gentils, bah, qui deviennent très 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 méchants sur la fin, et c'est aussi parfois un petit peu surprenant. On peut penser à des personnages qui étaient gentils à la base et puis qui petit à petit deviennent de plus en plus méchants, comme Walter White. Hein, et puis on va aussi pouvoir penser à des trucs beaucoup plus légers, du genre le personnage détesté par le héros d'une comédie, comme Newman dans Seinfeld, tu vois, où à chaque fois qu'il apparaît, il est là, Newman. Et c'est le méchant, et même si sur l'ensemble de la série il fait quand même pas grand chose, il faut bien l'avouer, de bien méchant, hein, mais malgré tout, même nous, quand on le voit,
on
le déteste, hein,
ouais.
C'est le méchant. Ce qui est quand même très très bizarre, c'est de dire à quel point on est influençable pour pas grand-chose. Bref, je t'ai fait une petite typologie des méchants possibles dans les séries.
Mm-hmm.
On va essayer de les passer en revue. Je crois que j'en ai cinq types de... Enfin, catégorie de méchants possibles.
Bel effort, bel effort.
Écoute, je fais ce que je peux, hein. C'est tout un métier, tu sais bien. On va commencer par ceux qui font partie d'un complot. Hein, parce que dans les séries, parfois, il y a des grands complots et nos héros luttent contre ces complots. Alors, l'avantage du complot, c'est que ben, c'est un petit peu une hydre. Hein. D'ailleurs, il y a même une série, le fameux Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., dans lequel le complot, c'est Hydra, hein, l'hydre littéralement. Donc, c'est une hydre. Donc, à la fois, ça a l'avantage de pouvoir se renouveler en permanence. Et donc, ben, même si pendant toute, par exemple, toute une saison ou tout un pan de saison, on va avoir un personnage qu'on va détester parce que il poursuit le héros, il veut à tout prix le tuer, l'empêcher de mener sa mission à bien, etc., etc. Faut bien se dire que cette idée quand même d'être celui qui contre l'action du héros, c'est un petit peu le rôle narratif du méchant à la base, hein, en tout cas, il me semble. Donc on va souvent avoir ce genre de personnage-là qu'on n'aime vraiment pas. Et l'avantage, c'est que comme c'est une hydre, ben, tu vas pouvoir couper une tête et en voir une autre apparaître. Et le complot continue à vivre, donc la série peut continuer à devoir se confronter à ce complot-là qui prend des figures différentes, sans pour autant garder toujours le même méchant, parce que l'avantage, c'est qu'on va avoir au fur et à mesure certains membres de ce complot qui vont pouvoir soit se rendre compte qu'en fait, c'est pas gentil d'être méchant, et puis qu'ils vont aller du côté des gentils, hein, ça peut arriver, ou qui vont disparaître. Il y en a qui vont, pour des raisons très très opportuniste, malgré tout, commencer à collaborer avec le héros ou avec le groupe de héros. Donc ça fait une possibilité de méchant. Je pense par exemple à certaines séries comme dans Le Caméléon, tu penses à Mrs. Parker, hein, qui est la méchante normalement, Mrs. Parker, du Caméléon, mais en même temps, plus on avance dans la série, plus on apprend à la connaître et plus elle devient un personnage à part entière qui est plus entièrement à 100% non plus la méchante et l'antagoniste du héros, quoi. Parfois, elle l'aide aussi. Parfois, ils peuvent collaborer pendant un petit moment ensemble. On peut voir ce genre d'évolution-là apparaître dans la série. Même chose dans Prison Break. On a certains méchants de la série qui, pour le besoin momentané, vont pouvoir s'allier au héros pour s'évader de prison ou combattre un méchant encore plus grand ou que sais-je encore. Donc on va pouvoir avoir ce genre de fonctionnement dans beaucoup, me semble-t-il, de séries qui nous présentent les complots. Je ne sais pas si ça t'évoque quelque chose, mais on peut penser à The Boys aussi. Dernièrement, dans la série The Boys, on a aussi une espèce de grand complot avec cette grande compagnie de super-héros qui cache quand même pas mal de choses et qui fait pas mal de choses dégueulasses. Et on va pouvoir découvrir que les différentes têtes de l'hydre de cette compagnie, finalement, ne sont pas toutes prises individuellement, elles ne sont pas si méchantes que ça. La plupart sont même assez touchantes ou pourraient être totalement amendables. La seule chose, c'est que même si tu coupes une tête, deux têtes, même si il y en a certaines qui décident par elles-mêmes de quitter le complot, il y en a toujours d'autres qui repoussent et la raison d'être du complot, elle continue, quels que soient les individus qui l'incarnent, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est une structure infinie. Alors, après les complots, on va avoir les sociopathes. Et les sociopathes, c'est très très vaste. C'est tous les personnages qui n'en ont absolument rien à faire de ce que ressentent les autres. Donc, ils ils ne poursuivent que leur plaisir individuel, leurs intérêts individuels, et ça peut prendre énormément de formes différentes. Alors ça peut aller jusqu'à des formes vraiment très très criminelles, hein, quand on pense par exemple au personnage dans Oz, ben on a des vrais psychopathes par exemple. J'ai parlé de Prison Break, ben dans Prison Break on a aussi le personnage dont j'ai oublié, T-Bag,
c'était ça,
voilà, T-Bag, qui lui aussi est plutôt un vrai malade dans sa tête, mais c'est aussi un type qui, à certains moments, va...
On va l'aimer aussi.
Voilà, exactement. Je mets J.R. aussi, hein, dans la même catégorie, le type qui est totalement insensible, qui ne poursuit que son propre intérêt sans en avoir rien à faire du reste de la société. Qui est-ce que j'ai mis encore? Évidemment, dans Game of Thrones, on en a connu quelques-uns aussi, des sociopathes. On pense notamment à l'ami, comment il s'appelait? C'était Snow aussi, mais c'était... Ouais. Ah, bon, bref, celui qui aime bien manger de la saucisse, mais j'ai oublié son nom. Bref, ceux qui ont vu la série sauront de quoi je parle. Alors, dans les différentes séries de super-héros, bien souvent, ce sont aussi des gens qui n'ont pas toutes les cases au bon endroit, hein, il faut bien l'avouer. Dans Gotham aussi, on a quelques malades. Je pensais du côté d'une série plus récente comme Batwoman, dont je n'ai pas encore parlé, mais là aussi, la méchante de l'histoire, en tout cas pour ce début de première saison, elle a un petit grain, on va dire. Même dans The Good Wife, il y a pas tant de vrais grands méchants que ça, hein, puisque c'est une série quand même assez pragmatique sur ce point-là, mais on a un personnage de vrai psychopathe richissime qui, je crois, tue sa femme et puis prévoit de tuer sa deuxième femme, ou je me souviens plus exactement l'histoire, mais enfin, c'était aussi un personnage assez savoureux, enfin... On pourrait penser à plein d'autres dans Heroes, c'était Sylar dans Heroes, il avait aussi quelques tendances plutôt inquiétantes dans Dexter, évidemment, mais on peut penser aussi à tous ces personnages qui, et finalement, sont un petit peu les héros de l'histoire, mais qui, dont... Une partie de la raison d'être de la série est aussi de démontrer que finalement, peut-être que les héros peuvent eux aussi, à cause de leur égoïsme, de leur manière d'être totalement immature, de ne penser qu'à eux, de ne poursuivre que leur propre intérêt, leur propre désir, etc. Ce sont eux les grands malades de l'histoire. Bon, évidemment, j'ai déjà cité Seinfeld, mais clairement, c'est un des propos majeurs de Seinfeld, c'est de nous montrer ça, hein, même si on peut penser que Newman c'est le méchant, en fait, il faudrait peut-être davantage regarder du côté des trois ou quatre compères principaux. Curb Your Enthusiasm, évidemment, on est aussi sur le même principe. Dans BoJack Horseman et Rick et Morty également. Et puis dans Les Sopranos ou Dexter, évidemment, on va avoir la même chose dans The Originals aussi, avec le personnage de Klaus, me semble-t-il. Donc ça, ce sont les sociopathes, il y en a énormément, de toutes sortes. Hein. L'avantage, c'est que... on n'a pas forcément besoin qu'ils s'amendent, ces personnages-là. Contrairement aux personnages du complot, où on va vraiment les détester jusqu'au moment où on va se rendre compte que finalement, ce sont des vrais individus, et une fois qu'ils s'individualisent, ils deviennent plus côtoyables. Les sociopathe entre guillemets que je viens de citer ici, mais il y a un vrai plaisir du spectateur à les regarder en action. En fait, c'est un vrai plaisir, peut-être un petit peu coupable, hein, mais de voir ces gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Je sais pas, c'est peut-être quelque chose de libérateur, de se projeter dans ce genre de personnage quand nous-mêmes on doit peut-être faire attention à ce que ressentent les autres. Et là, ben on prend plaisir à voir ce que ça ferait de ne pas avoir à penser ça. Donc, ils n'ont pas toujours besoin de s'amender. Quand je pense, par exemple, aux gens qui pouvaient regarder Dallas à l'époque, pourquoi continuer à regarder Dallas si ce n'est parce que, à la fois, ben, c'était assez jouissif de voir ce type qui était mais pourri jusqu'à la moelle et qui arrivait toujours à faire ses sales coups. Enfin, il y avait quelque chose d'assez malsain et en même temps, qui était un véritable plaisir de spectateur, j'ai l'impression. Donc voilà, il y avait ça qui était, me semble-t-il, plutôt intéressant. Et puis, mais malgré tout, il y en a certains qui peuvent finir par nous apparaître assez attachants au bout d'un moment. Généralement parce qu'on finit par comprendre pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ils sont devenus comme ça aussi. Et là, on change un petit peu de perspective sur ces personnages et on finit par s'identifier pleinement, pas uniquement pour le plaisir de n'en avoir rien à faire des autres, mais aussi simplement parce que ils ont peut-être vécu des situations auxquelles on peut se rattacher. Donc voilà tous ces autres types de méchants. Quand on voit par exemple le succès que peut avoir un personnage comme le personnage de Rick dans Rick et Morty, ben clairement on est dans cet attachement comme ça, un petit peu malsain peut-être, mais peut-être aussi très très libérateur à un personnage qui explose un petit peu les règles de la morale et de la bienséance pour n'en faire qu'à sa tête, mais de manière quand même très 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 inquiétante pour l'ensemble de ses proches, mais malgré tout ça a quelque chose d'assez réjouissant. Bon,
voilà,
ça c'était la deuxième catégorie.
Oui,
on continue avec
je voulais juste revenir sur ton héros détestable de Game of Thrones, ouais. Ramsay.
Voilà.
Et quand on regarde, pour faire justement cette petite recherche, ben, là, ils t'en sortent une longue liste, hein, le top 10 des méchants de Game of Thrones. Et de fait, il y en a très peu où on s'est vraiment attaché. Donc, à revoir sur les réseaux sociaux, on cherche toujours des méchants. Et bien, finalement, on en trouve quand on cherche.
Ouais. Voilà. C'est vrai que dans Game of Thrones, en même temps, l'avantage, c'est que comme il y en a beaucoup plus qui meurent, peut-être qu'on n'a pas besoin de les rendre attachants, tandis que il y a d'autres séries où on n'ose pas trop faire mourir les personnages et donc on préfère finir par les rendre attachants au bout d'un moment.
Bon.
Troisième catégorie, donc cette fois-ci, il s'agit des némésis, des alter ego, ou bien parfois le pire méchant, c'est le héros lui-même. Celui qui nous empêche le héros d'agir, ça va être lui-même, d'une manière ou d'une autre. Alors, on peut penser à quoi là-dedans ? On va pouvoir penser déjà à BoJack Horseman, où là, c'est clairement lui-même qui s'empêche d'agir. Dans Dexter aussi, c'est toujours un rapport à lui-même qui est très compliqué. Et même quand on voit les méchants, entre guillemets, auxquels il finit par s'affronter en fin de saison à chaque fois. Mais ce ne sont que des personnages qui se sont trop rapprochés de sa manière à lui de fonctionner, tout en n'ayant pas son code que lui a transmis son père. Et du coup, il est obligé de les tuer au bout d'un moment, quoi. On a clairement la métaphore de ses propres pulsions qui prennent le pas comme ça, et s'il les laisse trop empiéter sur le code de son père, bah, il est obligé de les tuer pour les empêcher de nuire. Donc on a ce jeu-là. Alors dans The Haunting of Hill House aussi, hein, on peut penser que c'est un petit peu la famille elle-même et certains personnages de la famille notamment qui se hantent eux-mêmes. On va pouvoir avoir des personnages dans... je pensais au personnage de House, du Dr House, par exemple, qui lui aussi pourrait être un petit peu vu comme une forme de sociopathe dans ma catégorie précédente, vu qu'il y a certains moments où il pense clairement qu'à lui, il se comporte comme un connard, hein, je sais pas comment le dire.
Ouais, d'accord, mais là c'est plus difficile parce que il sauve des vies quand même, il a beau être méchant.
Ouais,
mais
d'accord.
Au final,
mais...
chaque épisode il en sauve un, quoi.
Oui, on est d'accord, mais c'est pas du tout pour le plaisir de sauver une personne, c'est uniquement pour le plaisir d'avoir raison. Donc,
est-ce qu'on est vraiment méchant quand on veut faire ça?
Ah, c'est une bonne question. Toujours est-il que, là on revient en arrière, ici je voulais parler du fait que House, finalement, c'est son propre pire ennemi, tu vois. Finalement, c'est le seul qui peut s'arrêter lui-même, c'est House et ses excès et le fait que parfois il parte vraiment trop en vrille, quoi. Hein. C'est, on sait que c'est intéressant, c'est que finalement... tant que sa sociopathologie est au service de la médecine et qu'elle est sous contrôle, ça va. Mais il ne faut pas non plus la laisser aller trop loin, quoi. Un petit peu comme Dexter, il faut que ce soit sous contrôle social, entre guillemets, hein, avec d'ailleurs ses amis qui veillent bien à ce qu'il n'exagère pas, parce que sinon, ça risque vite de partir en vrille. Et il en est le premier... à en pâtir de cette histoire-là, quoi. Donc, et puis on a aussi tout. Enfin, je disais, ça peut être un alter ego, ça peut être soi-même, mais il y a aussi tous les némésis et évidemment tous les personnages de super vilains contre les super héros rentrent dans cette catégorie-là. Mais ça, on en a déjà parlé. Donc, je passe à la quatrième catégorie.
Bien.
Quatrième catégorie, cette fois-ci, le méchant est toujours un petit peu la représentation d'un passé refoulé ou bien de sentiments refoulés ou mal digérés. La mère dans la saison 2 de Big Little Lies, par exemple, je la mettrais dans cette deuxième catégorie, puisqu'elle l'incarne. Cette culpabilité encore mal digérée par les différentes protagonistes, elle est là pour un peu hanter les personnages qui n'ont pas avoué leur crime et donc elle continue à venir les empêcher de vivre de manière un peu heureuse. On va avoir la même chose dans toutes les séries Marvel de Netflix. Alors Iron Fist, je saurais pas le promettre vu que j'ai pas regardé jusqu'au bout, mais au minimum Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones, The Punisher, on a à chaque fois quelqu'un qui revient de leur passé. Alors parfois c'est un parent, hein, ça peut être le père, la mère, ça peut être quelqu'un qui a connu le personnage avant qu'il devienne super-héros et qui revient, qui doit venger quelque chose, et donc c'est contre lui que nos héros vont devoir combattre. Même chose dans Batwoman, d'ailleurs. On va avoir la même chose dans Mr. Mercedes, où clairement on a un duel entre deux personnalités qui vont s'affronter. Bon... oui, mais là, je suis revenue en arrière, désolée. Donc, le passé refoulé, je continue avec Buffy. J'en étais là. Le passé refoulé, très clairement, les méchants dans Buffy, c'est très, 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 très souvent, presque exclusivement, des sentiments, les sentiments ressentis par les personnages principaux qui s'incarnent sous la forme de différents monstres et qu'il va falloir combattre pour réussir à passer à une autre étape et continuer à vivre un petit peu normalement avec un petit peu de bonheur. Dans The Haunting of Hill House, évidemment, là c'est très très clair, le passé refoulé, les sentiments refoulés sont ce qui hante les personnages, il n'y a aucun doute là-dessus. Dans Dexter aussi, évidemment. Dans BoJack Horseman, si son passé ne le hante pas, je ne sais pas ce qu'il faut. Je pensais aussi au père dans One Tree Hill, qui était l'espèce de dame en peine, comme ça, qui continuait à hanter la série pendant quand même un certain nombre de saisons, avec son crime qui ne peut jamais être expié, qui est aussi une sorte de passé qui revient sans cesse. Et puis dans The Umbrella Academy aussi, on a ce personnage joué par Ellen Page qui n'a pas de pouvoir, en tout cas qui n'est pas censé en avoir, et dont on voit qu'elle finit par devenir le grand méchant de l'histoire, en tout cas de la première saison. Parce que il y a un passé là qui a été refoulé et qui au final va bien devoir finir par sortir, quoi. Donc voilà au niveau du passé refoulé. Et enfin, cinquième et dernière catégorie, vu qu'il va falloir s'arrêter déjà. Il s'agit de méchants finalement assez ordinaires, ou en tout cas à la base, ce sont des personnages ordinaires, et on les suit petit à petit, et on comprend comment ils deviennent méchants grâce à la construction, par leur histoire et par leur milieu, et ou par leur milieu. Parfois les deux, mais souvent soit l'un, soit l'autre. On va avoir ça, évidemment, dans une série comme Gotham, on va avoir ça dans Les Sopranos, on va avoir ça dans The Wire ou dans The Deuce, par exemple, où les méchants sont très clairement abordés comme méchants, mais en même temps comme des constructions de leur milieu. On va avoir ça dans Breaking Bad et dans Better Call Saul, évidemment. On va avoir ça dans un certain nombre de personnages de Game of Thrones, etc., etc. Donc finalement, c'est aussi assez intéressant. La série, parce qu'elle fonctionne sur le temps long, nous permet aussi d'aborder les choses de manière moins morale et manichéenne que d'autres formes médiatiques, justement en nous montrant que peut-être la moralité, ça n'est pas une affaire de nature, c'est peut-être quelque chose qui se construit avec le temps et avec les éléments qui nous entourent. Voilà, voilà.
Voilà, on a fait le tour de la question.
Écoute, non, j'en avais encore plein, mais je crois qu'on n'a plus le temps.
Plein, certainement pas.
Voilà.
Donc, les méchants représentés dans les séries télé.
Oui.
C'est assez complexe comme sujet, finalement.
Écoute, oui.
Merci en tout cas pour ce constat. On va se quitter en musique, si tu le veux bien.
Ah oui, je veux bien, tout à fait.
Alors, qu'as-tu pu identifier comme titre dans une série emblématique, peut-être en rapport avec le sujet ?
Eh bien non.
Eh bien non.
Figure-toi. Non, j'ai choisi la musique qui sert de générique à The Politician, dont j'ai parlé dans la première partie. C'est Chicago de Sufjan Stevens. Alors, je connais pas du tout, hein, j'avoue.
Merci de nous le proposer. On te retrouve la semaine prochaine.
Évidemment, oui.
Pour une nouvelle édition de Série Folie. Et on se quitte donc en musique.
All things go, drove to Chicago, all things know, we sold our clothes to the state, I don't mind. I made a lot of mistakes in my mind. Slept in parking lots. I don't mind. I was in love with a place in my mind. In my mind, I made a lot of mistakes. In my mind. Crying in the van with my friend, it was for freedom from myself and from the land. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes. I made a lot of mistakes.